Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos tous ensemble. Et ce soir, RTL crée l'événement avec dans quelques minutes à 18h15 un débat choc. D'un côté, Anne Hidalgo, maire de Paris, candidate à la présidentielle, icône des anti-voitures. Et de l'autre, l'homme qui n'a cessé de la critiquer, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Un face-à-face, une confrontation autour de cette question. Quelle place pour la voiture dans le monde de demain ? Anne Hidalgo a étonné. Ce matin, la socialiste a proposé une baisse des taxes sur le carburant. Est-ce paradoxal avec son programme très écolo ? On va y revenir. Et on discutera également, entre autres, de la pollution, des 30 km/h en ville ou de la cohabitation, parfois compliquée, entre 2 et 4 roues. Les autres titres de l'actualité, maintenant à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une, la dynamique Zemmour. Il était donné à 7% il y a un mois. Un institut de sondage le qualifie aujourd'hui pour le second tour, le polémiste, pourtant toujours pas officiellement candidat. Vous m'avez volé le plaisir de soirées insouciantes, d'aller au cinéma sans chercher les issues de secours. Les mots aujourd'hui d'une rescapée du Bataclan face aux accusés dans le procès des attentats du 13 novembre. Et puis une première messe aujourd'hui à Paris en hommage à Bernard Tapie. Proches et admirateurs sont venus en nombre. Les courses dans le Quintet Plus à Angers, il fallait jouer le 16, le 8, le 5, le 3 et le 7.
À 18h40, on va défaire le monde. Vos 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Signy et la fine équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Quel est le programme ?
Ce soir, on vous emmène au paradis. Enfin, dans les paradis fiscaux. Fraude, optimisation. On vous expliquera tout de ce monde fait de nuances et d'opacité. Au menu également, Boris Johnson recherche chauffeur désespérément et le Dalai Lama en vigneron en Suisse.
À 19h15, on va débattre, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet avec notamment cette interrogation. Est-ce que les sondages sont vraiment fiables ? Et puis, des points réguliers sur le temps avec vous. Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance ?
Demain du soleil sur les trois quarts du pays dans l'après-midi.
Le détail dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et donc nous sommes à quelques minutes de ce débat entre Anne Hidalgo et le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, l'un de ses détracteurs. Alors Anne Hidalgo parviendra-t-elle à casser son image de mère citadine hostile à la voiture? C'est ce qu'on a voulu savoir ce soir sur RTL.
Après notamment la dernière proposition de la candidate socialiste à la présidentielle, à savoir de baisser les taxes sur les carburants. En terre de gauche, on se fait peu d'illusions. Reportage à Libourne, en Gironde, de Philippe Demaria pour RTL.
Oui, s'irrelier son lieu de travail chaque matin ou bien amener les enfants à l'école nécessite d'utiliser un véhicule. Les distances s'imposent et les prix montent.
À l'heure actuelle, c'est un plein fait entre 55 et 60 euros tous les 10 jours.
Forcément, la proposition de baisser le prix du carburant ne peut que séduire, a priori.
Oui, bien sûr, ça porte. C'est important.
C'est sûr que le carburant, c'est important. C'est une bonne idée.
Ça ne me paraît pas une mauvaise idée, pour les voitures en tout cas. Pour les camions, je serais plus réticent.
Mais le fait que l'idée soit portée par Anne Hidalgo interroge.
C'est un très bel argument, mais j'ai des doutes. J'irai plutôt chez les écologistes que chez elle.
Pour certains, c'est même un rejet définitif.
Je pense que je n'y crois pas, surtout Anne Hidalgo. Mais enfin, elle vient quand même nous dire qu'elle va doubler les salaires. Donc il va falloir m'expliquer déjà où ils vont prendre l'argent pour pouvoir baisser et les taxes et doubler les salaires.
En tout cas, les choix énergétiques pèseront dans les thèmes de campagne.
Alors, est-ce que je voterai pour elle pour ça ? Non. Le problème de l'énergie guidera sans doute une bonne partie de ma réponse. Ça sera un élément très important.
Philippe Demaria à Libourne pour RTL. Devant Marine Le Pen, devant la droite, quel que soit son candidat, la folle ascension d'Éric Zemmour dans les sondages se poursuit.
Vincent Derosier, pour la première fois, le polémiste est même donné au second tour par l'Institut Harris Interactive.
Oui, et la dynamique est spectaculaire. Il obtient entre 17 et 18% des suffrages et il est au deuxième tour, quel que soit le candidat de droite en face. Un deuxième tour, Macron-Zemmour, donc Marine Le Pen se place troisième entre 15 et 16% des voix. Il faut croire que ces attaques répétées contre la patronne du RN, incapable selon lui de remporter la présidentielle, produisent quelques effets. Mais attention, Éric Zemmour reste très loin derrière Emmanuel Macron qui recueille entre 24 et 27% des suffrages. Et dans l'optique d'un deuxième tour, c'est le chef de l'État qui serait réélu, 55-45.
Alors ce soir, Vincent, on découvre un autre sondage qui donne Éric Zemmour de 13 à 14%, ce qui n'a pas du tout les mêmes implications. Est-ce qu'elles sont crédibles, toutes ces enquêtes?
Alors, dans ce nouveau sondage de l'Institut Elabe que vous mentionnez, Éric Zemmour n'est jamais en mesure de se qualifier pour le second tour, mais il indique quand même une très forte dynamique, plus 6 points en un mois pour le polémiste. Il faut donc rester très prudent. D'abord parce qu'un sondage n'offre que des indications sur les rapports de force à un instant précis. Et enfin parce qu'il existe cette marge d'erreur non négligeable. Par exemple, lorsqu'Éric Zemmour est donné à 17%, il y a 2 points de marge d'erreur. Il peut aussi bien être à 15% qu'à 19%. Et ça change tout pour un éventuel deuxième tour.
Ouais, les explications de Vincent Derosier pour RTL.
Et on note tout de même que dans ces deux études, dans l'attente du nom désormais du candidat de la droite, l'extrême droite recueillerait aujourd'hui au moins 30% des suffrages.
Après les chiffres, 330 000 victimes, après le constat de l'indifférence de l'Église face aux abus sexuels, le plus dur commence à présent. Premier remous, on va le voir dans un instant, mais d'abord, la réaction d'Emmanuel Macron au lendemain de la présentation du rapport Sauvé.
D'abord, je salue le travail fait par Jean-Marc Sauvé pendant de très longs mois. Salue aussi l'esprit de responsabilité de Miss Française qui a décidé de regarder ce sujet en face, comme l'avaient fait d'autres églises à travers l'Europe en particulier. Je souhaite que ce travail puisse se poursuivre dans la lucidité et l'apaisement. Notre société en a besoin. Il y a un besoin de vérité, de réparation.
Lucidité et apaisement pour la suite, dit Emmanuel Macron au micro RTL de Bénédicte Tassard. C'est maintenant à l'Église d'apporter les réponses et ça ne se fera pas sans débat.
Oui, d'ailleurs, ça a déjà commencé sur la question de la confession. La Commission Sauvé a proposé de lever le secret dont elle bénéficie. Réponse ce matin, Marie Garrier, du patron des évêques de France. Le secret de la confession est plus fort que les lois de la République.
Il n'aurait pas dû dire ça, c'est une erreur et il le reconnaît, a confié cet après-midi Karine Dahl, la directrice de la communication des évêques de France. De la difficulté en fait d'articuler le droit français avec le droit canon. Le code pénal assimile le secret de la confession au secret professionnel. Un article prévoit qu'on peut déroger au secret professionnel dans le cas de violence sur mineurs. Mais il n'y a pas d'obligation. Et dans le droit canon, le droit de l'Église, le secret de la confession est absolu. Donc, l'éventuelle confession d'un prédateur sexuel n'est pas révélée. La confession, c'est un sacrement. Le tête-à-tête avec le prêtre a un début, une fin, il y a des prières. L'Église considère que c'est un dialogue avec Dieu et c'est très cadré. Mais une fois que c'est terminé, là, c'est différent, il n'y a plus de secret. Donc, le prêtre doit tout faire pour que le prédateur parle. Toute conversation, toute confidence devra conduire à une dénonciation. C'est la règle que l'Église s'applique actuellement. La Commission Sauvé, vous l'avez dit, demande la fin du secret de la confession, spécifiquement dans les cas de violences sexuelles sur mineurs et personnes vulnérables. L'archevêque de Lyon, Olivier de Germay, sous le choc des révélations du rapport, disait ce matin sur RTL « Il va falloir y réfléchir ». Au menu sûrement de la réunion de tous les évêques à Lourdes la première semaine de novembre.
Ouais, cette question de la confession qui sera donc centrale et on suivra ça avec vous, Marie Guerrier, pour RTL.
Allez, votre journal se poursuit dans un instant sur RTL avec les premiers témoignages très forts. Vous allez l'entendre des rescapés du Bataclan au procès des attentats du 13 novembre. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
RTL Soir.
Et vous écoutez RTL, la suite de votre journal, donc à 18h09. Certains se sont cachés sous des corps, d'autres ont simulé la mort. Le procès des attentats du 13 novembre est entré aujourd'hui dans l'enfer du Bataclan.
Avec les témoignages des rescapés que vous avez suivis pour RTL, Anne Le Hennaff, parmi ces récits, celui de Clarisse, une jeune fille qui s'est cachée dans les faux plafonds du Bataclan pendant plusieurs heures.
Elle ressortait acheter des bières avec un copain lorsqu'elle entend les premiers tirs. Clarisse, 24 ans à l'époque, voit le regard du videur s'assombrir. Je comprends qu'il voit la mort. Notre seul choix est de retourner dans le Bataclan. Les tireurs sont 2 mètres derrière nous. Les salves résonnent dans la salle. J'ouvre une porte, je m'engouffre dans un escalier. On est 50. Je monte un étage, 2 étages. J'arrive dans une loge. On est piégés comme des cons. Je ne veux pas mourir dans une loge en plaque au plâtre. Alors je monte sur les toilettes et je défonce le faux plafond à coups de poing. Je grimpe, j'aide plusieurs personnes à monter. Je rampe dans la laine de verre. Elle restera 4 heures dans ce faux plafond avant d'être récupérée par la BRI. Elle essaye de fermer les yeux en traversant la fosse, mais j'ai quand même vu l'horreur. Clarisse, quelques mèches blondes échappées de son chignon, se tourne vers les accusés. Vous m'avez volé le plaisir de soirées insouciantes, d'aller au cinéma sans chercher les issues de secours, de vivre sans angoisse, tout simplement.
Anne Le Hennaff au Palais de Justice de Paris pour RTL. Les bonnes prévisions de l'INSEE dans sa dernière note de conjoncture concernant le taux de chômage, il passerait à 7,6% de la population active au troisième trimestre. trimestre contre 8% au deuxième. Les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé sur l'administration d'une troisième dose anti-Covid après les plus de 65 ans et les plus fragiles, elles préconisent un rappel 6 mois après la deuxième dose pour les soignants, les personnels des EHPAD, les professionnels du transport sanitaire et les proches des immunodéprimés. Cela représente près de 4 millions de personnes.
La santé et les inquiétudes exprimées aujourd'hui par les urgentistes devant l'Assemblée nationale à Paris.
Oui, parce que demain, le principe d'un numéro unique d'urgence doit être examiné en commission paritaire par les parlementaires. Un seul numéro, ça ne fera gagner de temps à personne et surtout pas aux patients, selon François Braun, le président de SAMU Urgence de France.
Cette modification, elle revient sur des vieilles lunes, sur des vieilles méthodes qui ne marchent pas, à savoir le fameux numéro unique dont on nous rabat les oreilles depuis 50 ans, qui ne fonctionne pas nulle part, contrairement à ce qu'on peut raconter, et qui en France serait une catastrophe pour le SAMU, pour la régulation médicale et pour la prise en charge de nos concitoyens. Vous n'aurez plus accès directement aux médecins, et quand vous aurez accès aux médecins, dans le meilleur des cas, on va mettre 3 fois plus de temps pour y accéder, donc c'est une perte de chance. Ça va allonger les prises en charge, ça va compliquer les prises en charge, et puis c'est donner au ministère de l'Intérieur l'emprise totale sur les numéros d'urgence et donc sur les numéros santé.
Le président de SAMU Urgence de France avec Agathe Landé pour RTL.
C'est une image qui restera. Jean-Pierre Papin, Basile Boli, Claude Lelouch, Jean-Louis Borloo, entre autres, portant le cercueil de leur ami Bernard Tapie.
Oui, c'était à la sortie de la messe d'obsèques célébrée aujourd'hui à Paris. Plusieurs centaines d'invités étaient présents, dont Brigitte Macron, mais aussi des admirateurs, parmi lesquels Moudji, venu spécialement de Montfermeil.
J'ai bercé toute ma vie, moi. Je ne m'intéressais pas au foot. Depuis que je l'ai connu, il est venu à Montfermeil, on l'a rencontré. Je suis supporter à fond de Marseille. Et la politique, je l'ai suivie aussi, parce que j'étais conseiller municipal, alors que je n'aimais pas la politique. C'est grâce à parce que Tapie, c'est le seul qui a ouvert la porte. C'est le monsieur tout le monde. Il vient de la banlieue parisienne. Il a tout bouleversé. Il a tout réussi tout seul. Il n'avait eu besoin de personne. Le mot bonhomme, il aime bien ce mot-là. Et j'adore. C'est un bonhomme.
Moudji et sa vie influencée par Bernard Tapie, propos recueillis par Nerissa Emani. Et puis c'est une indiscrétion RTL, vendredi pour la messe à Marseille, le cercueil de l'ancien président de l'OM sera orné à la demande de la famille de drapeaux bleu, blanc, rouge, mais aussi des couleurs de l'Olympique de Marseille.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et ce coup de pouce de Google pour nous aider à intégrer les considérations climatiques dans nos démarches quotidiennes et nos achats, le géant californien annonce ainsi qu'il va mettre à jour l'an prochain son Google Maps pour proposer par défaut les trajets les moins émetteurs de CO2 quand l'heure d'arrivée est la même. Le moteur de recherche affichera aussi les émissions de CO2 pour les voyages en avion, les hôtels, les services financiers ou les appareils électroniques.
Et c'était votre bonne nouvelle du soir. Merci beaucoup Marion Calais. Le temps, Peggy, est-ce que vous avez des bonnes nouvelles?
Oui, bonne nouvelle, belle journée dans l'ensemble. Alors, seule exception sur le nord-ouest demain, entre la Bretagne et les côtes de la Manche, un ciel chargé toute la journée et quelques faibles pluies. Ce sera humide et gris également à l'est, le matin seulement, parce que les éclaircies vont prendre le relais. Et partout ailleurs, un beau soleil après dissipation de quelques grisailles matinales. Puis toujours beaucoup de vent près de la Méditerranée. Les températures, un peu juste par endroit, 15 degrés à Besançon pour les maximales, 16 à Lyon, 18 à Paris, 20 à Brest et Toulouse, 21 à Bordeaux et 23 à Toulon.
Merci Peggy. Une pause et puis le débat que vous attendez tous dans RTL Soir. Vous nous écoutez peut-être en ce moment au volant. Et bien justement, on s'interroge, quelle place pour la voiture dans le monde de demain? Face à face, confrontation dans un instant sur RTL. D'un côté, Anne Hidalgo, maire de Paris, candidate à la présidentielle. De l'autre, l'un de ses détracteurs, Pierre Chasseret, de 40 millions d'automobilistes. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir
avec Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Allez, 18h, 18 minutes, bonne fin de journée. Donc place à l'événement du jour. Nous attaquons aujourd'hui dans RTL Soir nos débats présidentiels. Pendant toute la campagne, des candidats seront confrontés sur RTL à leurs opposants sur des thèmes qui vous concernent au quotidien. Tiens, vous nous écoutez peut-être au volant ou sur le quai du train ce soir pour rentrer du boulot. Justement, on s'interroge. Quelle place pour la voiture dans le monde de demain? Alors, face à face, Anne Hidalgo, maire PS de Paris, candidate à l'élection présidentielle, bonsoir.
Bonsoir.
Et Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, bonsoir.
Bonsoir.
Tous les deux, vous ne vous êtes jamais épargné, hein, on peut le dire. Vous allez échanger publiquement ce soir pour la première fois. Et qui sait, peut-être que vous arriverez à faire vôtre, in fine, le slogan de RTL.
Revivre
ensemble. Alors, fixons les règles. Nous allons séparer ce débat en deux parties. 1. La voiture à la campagne en banlieue. Bref, là où elle est très souvent indispensable. 2. La voiture dans nos villes. Et Christophe Bourroux, spécialiste auto de RTL, est aussi en studio. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Pour vérifier les chiffres que vous allez peut-être nous donner et éviter, si besoin, toute contre-vérité. Vous avez 15 minutes pour débattre. C'est parti. Avant toute chose, question simple à tous les deux. Comment vous êtes venus ici dans notre studio à Neuilly-sur-Seine? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'embouteillages aux alentours. Voiture, métro, bus, trottinette, vélo. Est-ce que vous avez fait votre choix, Anne Hidalgo?
Métro.
Métro.
Ligne directe.
Ligne directe, ouais. Une, hôtel de ville, absolument. Les Sablons, Neuilly. Ouais. Pierre Chasseret?
À pied, car j'étais au téléphone.
Ah bah c'est bien, vous voyez, on sort tout de suite des clichés. Ceci étant dit, on va commencer ce débat avec la préoccupation numéro un de beaucoup de nos auditeurs, notamment à la campagne et en banlieue, le prix du carburant. Vous savez tous les deux qu'en ce moment, le prix du litre atteint 2 € dans certaines stations essence. Ce matin, Anne Hidalgo, surprise, vous avez proposé de baisser les taxes sur les carburants pour donc faire baisser les prix à la pompe. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal, alors même que vous avez réduit la place de la voiture à Paris et que vous militez pour une transition énergétique rapide ?
Non, au contraire, la transition énergétique rapide doit se faire. Et si je parle de Paris, mais on en parlera tout à l'heure, c'est une ville où 30% des Parisiens à peu près ont aujourd'hui un véhicule à eux, mais où l'essentiel de la mobilité se fait en transport en commun ou à pied. Chacun a à 10 minutes à pied de chez lui une station de métro ou de bus. Donc là, le sujet, c'est la France entière. Et bien sûr qu'il y a une situation très différente entre les grandes métropoles, qui parfois même ont des transports gratuits, et les territoires plus ruraux, dans lesquels, pendant très longtemps, il n'y a pas eu d'investissement, même au contraire, on a retiré des petites lignes ferroviaires, dans lesquelles on n'a pas accompagné les gens pour qu'ils puissent acheter des véhicules électriques ou autres. Et donc, c'est là, aujourd'hui, que le prix du carburant va peser très très lourd sur le pouvoir d'achat de ces personnes qui sont souvent des classes moyennes, des travailleurs, des gens qui cherchent un emploi, des retraités qui ont des activités bénévoles. Et donc, il faut bien sûr s'intéresser à eux. On est dans une situation exceptionnelle et à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. La situation exceptionnelle, c'est l'augmentation des prix du carburant. On sait que en 2018, 3 centimes d'euros de taxes
ont mis le feu au pays. On est dans une situation, effectivement, en termes de prix du baril, voilà. Très proche
là,
de celle pré-gilets jaunes.
On est dans cette situation, et je pense que j'en discutais encore tout à l'heure avec le ministre espagnol des Affaires étrangères, et qui me disait, en fait, il n'y a pas 36 000 leviers. Face à une situation aussi exceptionnelle, le levier qu'ont les États, c'est le levier de la TVA pour baisser les taxes, mais je maintiens qu'il faut sortir de toute façon des véhicules thermiques. Paris, on a dit 2030, la France pour l'instant c'est 2040, je pense qu'il faut aller à 2030 pour toute
on
la
va
France,
en discuter.
Pour vraiment pouvoir faire cette transition écologique, mais aider le pouvoir d'achat des personnes qui n'ont pas de choix autre que de prendre leur véhicule personnel.
Pierre Chasseret, cette baisse des taxes, vous l'avez réclamé pendant des mois, après avoir dénoncé la politique d'Anne Hidalgo pendant des années. Est-ce que ce soir, vous vous applaudissez?
Alors vous savez, déjà, 40 millions d'automobilistes, moi, on s'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est les 40 millions d'automobilistes qui m'écoutent ce soir et qui se disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé chez Anne Hidalgo? Je suis pas là pour faire de la politique. Je suis pas là pour dire Anne Hidalgo, c'est bien, c'est pas bien. Moi, je dis juste que là, vous avez compris un point qu'aucun candidat n'a compris. Pour l'instant, on a saisi tous les candidats à la présidence de la République. Personne ne nous a répondu. En revanche, je m'interroge, parce que je vous ai entendu, Anne Hidalgo, vous dites baisse des taxes. Ok, super. Mais si c'est pour rendre 3-4 centimes par-ci, par-là, c'est pas la peine. Alors, l'annonce, je l'ai entendue, mais moi je veux savoir, et tous ceux qui nous écoutent veulent savoir, c'est quoi la baisse des taxes? Ça correspond à quoi? Parce que passer d'un 61 à un 58, ça va révolutionner personne.
Et
si c'est juste pour un effet d'annonce,
c'est une question, Anne Hidalgo, qui intéresse aussi les auditeurs, parce qu'on était dans le journal, vous l'avez sans doute entendu, à 18h, sur une terre de gauche, et on est allé interroger justement les sympathisants socialistes, automobilistes, dans un endroit à Libourne, où ils sont bien souvent obligés de prendre leur voiture sur votre proposition.
Où il y a beaucoup d'embouteillages. Aussi.
Il y a beaucoup d'embouteillages. Ils ont du mal à croire à votre sincérité. Peut-être parce que vous avez cette image peut-être à cause de Pierre Chasseret, je ne sais pas, mais de candidate un peu bobo, écolo, très parisienne.
D'abord, je suis candidate, c'est vrai, à l'élection présidentielle. Paris, c'est mon cœur, c'est ma ville, c'est une réalité qui est très différente, par exemple, de celle de territoires ruraux, ou par exemple même, puisque vous pensez à une ville dans la banlieue de Bordeaux, où la situation est quand même très très différente. Donc il faut aider toutes les Françaises et les Français. Je suis d'accord avec Pierre Chasseret, il ne s'agit pas de dire ces 3 centimes par-ci, ça ne changera pas fondamentalement les choses. Je l'ai dit, il y a une situation exceptionnelle. Une inflation qui touche aujourd'hui essentiellement les matières premières, l'énergie et bien sûr les carburants. C'est une situation exceptionnelle qui n'est d'ailleurs pas simplement une situation française sur laquelle un certain nombre de gouvernements, je reprends le cas de l'Espagne, ont déjà agi. Par exemple, l'Espagne a déjà bougé les taxes, la TVA, pour faire vite, sur non pas l'essence, mais sur tout ce qui a trait au gaz et au chauffage. Donc moi, ce que je propose, c'est que de façon exceptionnel et bien sûr pour couvrir cette période-là, on puisse jouer sur la TVA. La TVA aujourd'hui, elle est à 20%. La TVA aujourd'hui, elle est à 20% sur l'essence. Je propose qu'on puisse la passer à 5,5.
C'est-à-dire
comme un bien de première nécessité.
Voilà, c'est ça la clé. C'est le bien de première nécessité. Là, vous savez, il y a des fois où c'est difficile de dire non. Ça se traduit par une baisse effective du prix du carburant d'en gros 20-22 centimes
Absolument.
Au litre. C'est concret. Mm-hmm. Effectivement, là, j'ai envie de dire, c'est la préoccupation
c'est
majeure
de
des Français.
C'est une mesure de pouvoir d'achat.
Mais vous dites, c'est une façon de raccrocher ceux qui aujourd'hui sont contraints de prendre leur voiture à la transition énergétique. Mais là, effectivement, on leur donne un coup de pouce, mais... Comment on les raccroche ? Parce que dans le même temps, vous voulez qu'ils abandonnent leur voiture thermique d'ici
d'abord,
2030. Alors comment ?
Ils seront obligés d'abandonner leur voiture thermique parce que les constructeurs ont déjà engagé, et tant mieux, parce qu'on a poussé pour ça, on a fixé un cap. Et les constructeurs ont déjà engagé la transformation du secteur automobile. Et il y aura d'ici 10 ans quasiment plus de véhicules thermiques. Il restera les véhicules d'occasion, sur lesquels il faudra mettre ce qu'on appelle du rétrofit, faudra accompagner. Mais moi, ce que je veux surtout dire d'abord à tous ces gens qui subissent le prix de l'essence et qui ne peuvent pas faire autrement, parce que on les a en plus rendus dépendants au diesel, dépendants à la voiture individuelle, sans même, par exemple, le plan de relance qui est là sur la table, pourquoi ne l'a-t-on pas mis vraiment mobilisé pour aider toutes ces personnes qui ne peuvent pas aujourd'hui s'acheter un véhicule électrique, pourquoi ne l'a-t-on pas mis vraiment sur la table pour les accompagner dans l'achat de ces véhicules ? Il y a des primes à l'achat de véhicules et Paris en fait aussi pour les Parisiens, mais pas suffisant. Il y a des gens qui ont un tel reste à charge s'ils voulaient changer de véhicule qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc, ce que je veux dire à toutes ces personnes-là, c'est oui, moi j'ai entendu que, et vous avez raison, la transition écologique ne peut pas se faire contre vous ou sans vous. Et oui, c'est absolument indispensable de faire cette transition écologique pour nos enfants, pour les générations futures, pour pouvoir vivre sur cette planète. Et là, on est dans une période, un contexte très particulier où il faut vous aider en termes de pouvoir d'achat, parce que vous ne pouvez pas subir la double peine.
Pierre Chasseret, pour conclure sur ce thème du carburant.
Le premier, c'est transition. J'entends le mot transition, et jusqu'à présent, à chaque fois qu'on nous a parlé de transition écologique, c'était pas la transition, c'était de la rupture. Et la rupture, c'est pas une transition. La transition, c'est en douceur. Tous les automobilistes sont convaincus que, sans doute, effectivement, peut-être que leur prochain véhicule, d'ailleurs, de plus en plus, on commence à regarder ce qui se passe, l'intérêt, l'engouement des Français, ne serait-ce que pour l'hybride, est en train d'être grandissant. Donc ça, c'est une réalité. Mais il faut pas toucher à ces automobilistes qui, aujourd'hui, n'ont pas les moyens de changer leur véhicule. Moi, j'ai un exemple concret. Celui-là, il remonte à 2018, au début des Gilets jaunes. Je me souviens de ce moment qui a été terrible. Je rentre de vacances à l'association et je vois un écran de boîte mail de l'association rempli de messages sur les carburants. À cette époque, aucun candidat ne nous écoutait. Aucun politique n'écoutait 40 millions d'automobilistes. Cette histoire de la baisse de la fiscalité, on la porte maintenant depuis plusieurs années. Moi, ma question, je voudrais savoir pourquoi, ça c'est ma question, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Ils se disent, mais Anne Hidalgo, d'habitude, c'est pour nous annoncer une mauvaise mesure. J'ai frôlé l'infarctus du myocarde ce matin, moi, Anne Hidalgo.
Mais vous êtes là, vous êtes vivant, tout va bien.
Je veux savoir, qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit pour se dire, aujourd'hui, je vais en faveur des automobilistes qui sont dans leur voiture en France.
Alors, Anne Hidalgo, qu'est-ce qui s'est passé?
D'abord, en tant que maire de Paris, je n'ai pas cette même préoccupation. Je n'ai pas eu à voir cette même préoccupation, puisque le sujet principal d'une ville comme Paris, comme de toutes les grandes villes du monde, c'était la pollution, diminuer le trafic automobile, faire en sorte que tous ceux qui pouvaient faire autrement que de prendre leur voiture personnelle puissent faire autrement.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est en allant à la rencontre des Français pendant ce mois.
D'abord,
depuis que
je connais quand même la France et je connais la vie des Français, mais c'est surtout de voir la crise qui est en train de se profiler à nouveau devant nous. On a connu la crise des Gilets jaunes. Ça a été quelque chose d'extrêmement dur, à la fin extrêmement violent, mais qui partait d'une vraie question sociale. Là, on va se retrouver dans la même situation sans anticiper. Or, on peut anticiper pour plein de raisons.
Juste en amont, vous avez chiffré le coût de cette mesure ?
En fait, si vous passez la TVA de 20% à 5,5%, c'est autour de 8 milliards d'euros. Mais je crois qu'il faut, en tous les cas, le faire. Il faut accompagner nos concitoyens pour qu'ils puissent passer le cap, sans quoi, je vais vous dire, ça nous coûtera beaucoup plus cher. Regardez la crise des Gilets jaunes non gérée. Combien de milliards ont été mis sur la table? Ça a servi à quoi? À qui? On n'en sait rien. Et je crois qu'il faut vraiment se dire que on gagne à accompagner socialement des gens qui sont en difficulté, à les embarquer dans la transition écologique, parce que de toute façon, l'horizon à 2030-2040 de plus de véhicules thermiques, il est là et on va le tenir. Mais au moins, ils sont avec nous. Ils ne sont pas en dehors de ce grand projet qui est la transition écologique de notre pays.
Anne Hidalgo, Pierre Chasseret, vous restez avec nous. On va marquer une très courte pause dans ce débat et puis on va s'intéresser à des points un peu plus marqué sans doute de désaccord sur la place de la voiture en ville. On va parler notamment des 30 km/h, du stationnement, de la cohabitation entre vélo, voiture et trottinette qui n'est pas toujours facile. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après ça sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Allez, 18h33 minutes, RTL Soir continue avec donc l'événement ce soir, le premier de nos débats présidentiels. Un candidat face à un opposant sur un thème de campagne qui vous concerne ce soir, Anne Hidalgo face à Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes, avec en creux cette question: quelle place pour la voiture dans le monde de demain? On va se pencher sur nos villes maintenant. Anne Hidalgo, à Paris, vous avez abaissé la vitesse quasiment partout à 30 km/h début septembre. Est-ce que d'ailleurs vous pouvez tirer un premier bilan en termes de pollution, de bruit, d'accident?
Pas encore, c'est un peu court, mais bien sûr qu'à Paris, d'abord, vous savez, ce sont des mesures qui sont portées aussi par les Parisiens. Hein. Ce sont des mesures qui ne sortent pas comme ça du caprice de tel ou tel élu. Ça participe d'une vision d'une ville dans laquelle, parce qu'on a beaucoup de transports en commun, parce qu'il y avait beaucoup de pollution, nous pouvons effectivement nous passer en partie de voiture. Il y a des gens qui ne pourront pas s'en passer et il faut des dérogations pour eux. Évidemment, ce que nous portons. Mais aujourd'hui, très concrètement, les Parisiens, pas simplement ceux qui ont voté pour moi, beaucoup de Parisiens qui m'ont dit au moment où on avait fermé les voies sur berge pour réduire la pollution, qu'ils étaient très agacés, très énervés.
Ils en faisaient partie, je crois.
Ça n'a pas changé.
Ça n'a peut-être pas changé, mais aujourd'hui, beaucoup de ces gens-là me disent, en fait, je suis passé à autre chose, soit au transport en commun, soit au vélo électrique.
Vous êtes passé à autre chose?
Et ça va beaucoup mieux. Mais cette solution-là n'est pas valable, évidemment, pour des villes, des territoires qui n'ont pas la même densité et la même densité de transport en commun et même les mêmes problèmes de pollution atmosphérique que nous avons à Paris.
Est-ce que vous êtes passé à autre chose? On rappelle aussi que la 30 km/h, ça existe à Grenoble, à Lille, à Nantes, à Rennes. Ce n'est pas,
et que la vitesse moyenne à Paris est de 15 km/h. Hein.
Oui, d'après les données, notamment GPS des opérateurs.
Est-ce que je suis favorable avec l'association 40 millions d'automobilistes aux 30 km/h généralisés? Fondamentalement, non. Maintenant, on fait quoi?
Ça ne me surprend pas.
Voilà. On fait quoi avec cette position? Soit on regarde devant, soit on conduit en regardant dans le rétroviseur. Moi, j'ai face à moi quelqu'un qui est prêt à construire. J'ai envie de proposer. Je viens d'entendre quelque chose à Hidalgo. Personne ne l'a entendu, mais moi c'est un combat majeur pour les automobilistes en France. Vous venez d'employer un mot, et je l'ai bien entendu, dérogation. Quand vous parlez de dérogation, est-ce que vous faites référence aux zones à faible émission?
Quand je parle de dérogation, je parle d'un pragmatisme qu'il nous faut avoir. Par exemple, puisque nous sommes Paris et d'ailleurs l'agglomération maintenant parisienne, une zone de faible émission, on a regardé. Il y a des gens qui sont venus nous voir. Je pense par exemple aux commerçants des marchés alimentaires qui nous ont dit ah, bah, nous, on n'a pas les moyens, même avec vos aides, parce qu'on a mis en place des aides, on cumule d'aides pour les aider à changer de véhicule. Ils nous ont dit nous, on ne va pas y arriver. Ben, on est pragmatique aussi. On regarde ces dérogations. Ce qui nous importe, c'est de baisser le niveau de pollution, de s'inscrire vraiment de façon très claire dans un calendrier de cette transition écologique qui nous amène à être moins pollués.
C'est vrai qu'on s'interroge sur les dérogations, peut-être, et vous aussi, Pierre Chasseret, sur les automobilistes plus lambda. Parce que d'ici 2024, les voitures avec des vignettes critères 2, donc ça concerne beaucoup d'automobilistes parisiens, ne devraient plus pouvoir rouler dans la capitale. C'est ce type de dérogation que vous souhaitez, Pierre Chasseret ?
Il y a un constat, c'est que, et ça on l'a toujours dit à 40 millions d'automobilistes, bien sûr les villes n'ont pas vocation à accueillir toutes les voitures de la planète,
oui,
bien
ou
sûr.
Ou être traversées par le centre, parce que ça n'a pas vraiment beaucoup de sens.
C'est une évidence, mais il faut développer alors des axes périphériques qui permettent de contourner les villes. Si on fait ça, ça marche. Il faut développer les parkings relais aux entrées des villes.
Absolument, ce qui est permettre... aussi
voilà, ça a été fait du côté de Lille. Oui. Martine Aubry a fait
aussi,
ça de mémoire.
On le fait.
Et ça fonctionne super bien. C'est-à-dire, on pose la voiture, on prend les transports, c'est gratuit, surveillé. C'est génial, on est sûr de retrouver la voiture dans le même état. Mais moi, ce qui m'importe, c'est, je vais vous prendre deux, trois exemples, parce que là, on va dépasser Paris. Je veux savoir, on prend quelqu'un qui a son fils, je sais pas, qui habite Sotteville-lès-Rouen, qui doit basculer, emmener son fils à un soin médical à Rouen, et qui n'a pas la voiture qu'il faut. On met en place une dérogation. Vous, présidente de la République, vous mettez en place une dérogation ?
Ce n'est pas le rôle du président de la République, mais je pense que les élus locaux sont capables de porter ce type de dérogation. D'ailleurs, vous savez, quand on nous avait proposé il y a quelques années de mettre en place un péage urbain autour de Paris, on m'avait dit, beaucoup de Parisiens qui ont râlé contre les voitures urbaines, je m'en dis, ah mais mettez un péage, ça ira bien, comme ça les gens ne rentreront plus. La question que je me suis posée, c'est justement celle-là. Que fait la personne qui doit accompagner son enfant ou son parent à l'hôpital et qui n'a pas les moyens de payer ce péage. Et donc, j'ai toujours refusé ce péage. Mais bien sûr qu'il faut mettre en place des mesures pragmatiques d'accompagnement. Il faut regarder les situations. Par exemple, sur une ville comme Paris, on a, sur les questions de stationnement ou autre, travaillé, discuté avec les infirmiers, infirmières libérales, les médecins qui nous ont dit, mais nous, on a besoin de stationner et de pouvoir avoir un stationnement gratuit. Eh bien, on l'a fait, on a discuté avec eux et on a apporté des solutions à des professions
juste pour terminer, elles
qui
sont suffisantes,
évidemment
ces solutions,
avaient des difficultés.
Pierre Chasseret.
J'entends une voie d'ouverture, c'est-à-dire que j'ai posé un exemple qui est l'exemple du soin médical. J'ai entendu la réponse. La réponse, c'est oui, on va voir. Mais donc, je veux un engagement. Je veux entendre,
oui,
moi Anne Hidalgo, présidente
aussi,
de la République.
Pierre Chasseret, ouais. Je veux aussi un engagement. Je veux aussi que 40 millions d'automobilistes considèrent que l'enjeu climatique et la transition écologique, c'est quelque chose qui doit tous nous unir.
Bien sûr.
Je veux entendre aussi que, de toute façon, d'ici 10 ans, il n'y aura plus, ou 15 ans, plus de véhicules thermiques qui seront fabriqués. Et donc, d'ores
Pierre
et
Chasseret.
Déjà, il faut rentrer dans cette transition. Et là, après, une fois qu'on a le cap, les délais, et qu'on regarde les situations, comme par exemple celle qu'on a évoquée tout à l'heure, j'ai dit à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Eh bien, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, qui peuvent être des dérogations.
Alors, pour ce qui est des véhicules thermiques et de la construction, les constructeurs eux-mêmes disent qu'ils vont arrêter.
Absolument.
Donc là, pour le coup, j'ai même pas besoin de le dire, avec 40 millions d'automobilistes, les constructeurs le disent. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que tout le monde veut de la transition. Ceux qui diront qu'ils sont les candidats d'une transition en douceur auront le sentiment que les Français iront de leur côté. Aujourd'hui, la rupture n'est pas possible. J'entends cette mesure et je ne pensais pas dire ça un jour à Hidalgo.
Eh ben, merci.
On a pris les carburants.
Une transition programmée.
Pour terminer, Anne Hidalgo, je voudrais vous poser deux questions politiques extrêmement rapides parce que malheureusement, le temps nous est compté. D'abord, vous incarnez comme Yannick Jadot une social-écologie. Vous avez des positions différentes, on vient de l'entendre sur le carburant par exemple. Dans les sondages, pour l'instant, vous êtes tous les deux en dessous des 10%. Pourquoi ne pas s'unir ? Est-ce que la porte
reste ouverte.
D'abord, il faut bien sûr que tout le monde discute et qu'on porte nos idées et qu'on soit... Vous savez, on est au début d'une campagne. Hein. Je sens beaucoup de fébrilité et des gens qui nous expliquent que les enquêtes d'opinion sont des résultats définitifs d'une élection qui aurait lieu aujourd'hui. Il faut arrêter ce délire quand même. Hein. Une campagne électorale, c'est un moment où les candidats viennent poser, proposer, se débattre. Et puis, on aime ça dans notre pays. Hein. C'est quand même un moment fort où on pose les options pour le pays, laissons quand même ce débat se dérouler. Et je pense que les Françaises et les Français eux-mêmes vont créditer les uns et les autres de plus de crédibilité. Et on verra. Ce que je veux vous dire, c'est que la femme politique que je suis est bien décidée à aller au bout aussi, parce que je veux porter aussi, au-delà de la transition écologique, au-delà de la transition sociale de cette transition écologique sur laquelle il faut mettre des mesures d'urgence, je veux porter la voix des femmes. Je veux porter la voix des femmes de ce pays qui ne peuvent pas en permanence se contenter de passer les plats. Voilà. Et il est temps qu'une femme dans ce pays accède vraiment à des postes de premier plan.
Merci Anne Hidalgo, maire de Paris, candidate à l'élection présidentielle, d'être venue débattre ce soir sur RTL avec vous. Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, merci aussi. Vous avez presque réussi à revivre ensemble, c'est formidable ce slogan RTL. Merci en tout cas d'avoir confronté vos idées dans RTL Soir et d'avoir inauguré donc nos débats présidentiels. Pause et ensuite on va accueillir l'équipe dont défait le monde pour 20 minutes d'actu. Autrement, va notamment se poser cette question en pleine révélation mondiale sur les Pandora Papers. L'optimisation et l'évasion fiscale, comment ça fonctionne exactement ? A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.